Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Dans quelques instants, notre frère Alain va venir nous faire la lecture de la parole de Dieu. Deux petites annonces à vous mentionner avant. Vous avez reçu cette semaine, pour une première fois, une petite pub pour la prédication. Qui l'a reçue? Ça veut dire que les autres, vous n'êtes pas sur la liste d'envoi ou peut-être que vous n'avez pas d'ordinateur. C'est une possibilité. Mais à partir de cette semaine, on va commencer à produire juste une image qui sert à annoncer la prédication du dimanche matin. Et on tenait à vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est le but qu'il y a derrière ça. Bien, il y a plusieurs buts. Premièrement, c'est de se préparer pour venir ici le dimanche matin. D'accord? Le moment où on se place sous le ministère de la prédication de la parole de Dieu, c'est un temps précieux, c'est un temps d'adoration où nous sommes disponibles pour que Dieu vienne façonner nos cœurs, nous transformer à l'image de Christ. Et nous croyons que si l'Assemblée tranquillement prend l'habitude d'aller lire le passage, déjà de s'en imprégner, déjà de se poser des questions, déjà de demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire cette semaine dans ta parole? » D'accord? Alors ça, c'est un premier but. Une des choses qui m'est passée par la tête aussi, certains de nos jeunes gens commencent à fréquenter le service ici. D'accord? Vos enfants vieillissent et ils arrivent. Et puis, on cherche des moyens de s'assurer que la prédication va être tout de même pertinente pour les plus jeunes. Maintenant, je crois personnellement qu'une manière que vous pouvez aider vos jeunes à recevoir de la prédication lorsqu'ils arrivent à 12, 14, 15, 16 ans et ils sont là 45 minutes à écouter la prédication de la parole, une des belles manières que vous pouvez les aider, c'est de lire le passage avec eux avant d'arriver ici. De lire, de voir déjà c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui est en train de se passer, afin qu'ils soient déjà sur ce mode. Vous savez, on prêche la parole ici par exposition. Nous tâchons d'exposer la parole de Dieu, simplement de mettre de la lumière et de laisser l'Esprit travailler à travers la parole de Dieu. Alors, vous pouvez prendre le temps comme ça, tout simplement d'aller lire. D'ailleurs, ceux qui conçoivent ces petites pubs-là ont mis une fonction. Vous pouvez cliquer sur l'image, vous arrivez au passage biblique. Alors, si vous êtes au travail, dans le métro, vous allez arriver sur le passage biblique, vous allez pouvoir tout de suite commencer à le lire. Maintenant, un autre but aussi avec ça, c'est qu'on puisse s'en servir tranquillement pour inviter des amis. Maintenant, je voudrais mettre quelque chose de très clair avec vous. L'objectif, ce n'est pas d'inviter des gens qui sont intégrés dans une autre assemblée locale. D'accord? J'espère que vous avez compris que la direction de cette assemblée, c'est de gagner des âmes qui sont perdues. Alors, si vous avez des amis qui fréquentent pas une assemblée, qui se sont éloignés du Seigneur, des gens de l'Église, vous voyez, qui négligent depuis quelque temps de venir à l'assemblée, vous recevez la publicité, puis vous dites, « Il me semble que le Seigneur a quelque chose pour lui cette semaine. » C'est bon, transférez-le comme ça. Alors, ça pourrait être à un frère, mais ça peut aussi être à des amis qui connaissent pas le Seigneur. Et dans la dernière année, j'ai régulièrement eu des gens de l'Assemblée qui m'ont dit, juste en sortant, « Oh, j'aurais aimé ça que telle personne à qui je parle du Seigneur ait été ici ce matin pour entendre l'Évangile. » Vous avez remarqué qu'on s'assure de garder, à travers la louange, l'adoration, la prédication de la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, comme la clé pour comprendre toutes les Écritures. Toutes les saintes Écritures parlent de Jésus-Christ et vous allez constamment entendre dans la prédication ici des allusions ou une exposition de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, amenez quelqu'un de vos amis à venir ici, c'est les exposer à la parole de Dieu, les exposer au message de l'Évangile. Alors, au fur et à mesure que vous allez recevoir ces invitations-là, si le Seigneur vous met à cœur de transférer un ami, de l'inviter à venir à l'Église, ça va être une introduction pour cette personne-là à l'Évangile de Jésus-Christ. D'accord? Alors, c'est un outil que vous allez recevoir chaque semaine. Si vous ne le recevez pas, allez sur le site Internet, inscrivez-vous. Vous avez une adresse, envoyez un courriel, donnez votre adresse, demandez d'être ajouté à la liste d'envoi. Vous allez recevoir ça chaque semaine. Et Dieu voulant, c'est pour qu'on puisse se préparer à l'adoration et inviter des amis à venir entendre l'Évangile ici. Une première annonce. Une deuxième annonce, ma famille et moi allons être absents la semaine prochaine. On prend quelques jours de congé et on va aller à Rivière-du-Loup. Je vais aller apporter le message de la parole là-bas à Rivière-du-Loup. Maintenant, la semaine prochaine, c'est Richard Hull qui va venir apporter le message de la parole ici. Et pour moi, c'est vraiment une joie. D'accord? C'est avec confiance. C'est avec beaucoup de joie que je place l'Assemblée, l'Église de l'Espoir, sous le ministère de Richard Roule. Richard est mon coach personnel. Depuis des années, ça a été mon premier pasteur, vraiment un père spirituel pour moi. Mais déjà, depuis quelques années, on a recommencé à avoir cette relation de coaching ensemble. Et donc, on se rencontre plusieurs heures, généralement tous les mois. Richard, c'est un homme de la parole. C'est un homme qui est profondément attaché à la parole de Dieu. C'est un homme de prière, un homme très intègre dans ses voies et passionné pour le royaume de Dieu. Alors, la semaine prochaine, c'est lui qui va apporter le message. Vous allez recevoir une petite pub cette semaine pour vous annoncer le sujet du message, pour inviter des amis à travers ça. Je vous invite à tourner avec nous dans Matthieu 26. Nous allons aller ensemble au verset 36. Et on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 26, 36.
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. »
Merci. Merci, Alain. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Bon Père, je veux t'adorer ce matin et te bénir pour ce privilège que nous avons de nous assembler pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Célébrer celui qui a créé les cieux et la terre, Seigneur. Célébrer celui qui a envoyé son Fils. Père, nous savons que tu es bon parce que tu nous donnes, Seigneur, à certains la santé. Tu pourvois à nos besoins. Tu nous donnes, Seigneur, des enfants. Tu nous donnes, Seigneur, de bâtir une vie sur cette terre. Mais nous savons surtout que tu es bon. Parce que tu ne nous as pas livrés à nous-mêmes. Mais tu es venu vers nous dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ. Et dans ta grâce, tu nous invites à entrer en communion avec toi. À recevoir le pardon de nos péchés, à se savoir aimé de Dieu. Père éternel, je suis arrivé ici ce matin, le cœur tracassé, le cœur chargé de toutes sortes de soucis, de préoccupations. Mais Seigneur, à ce moment-ci, je veux entendre ta parole. Viens parler, Seigneur. Aide-nous à entrer dans ce jardin avec Jésus. Aide-nous à saisir le combat qui a été livré là pour le salut de nos âmes, Seigneur. Et apprends-nous à marcher à la suite de Jésus-Christ. Il est notre modèle, Seigneur. Apprends-nous à dire, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des moments où on cherche la direction de Dieu. Ça, c'est dans notre jargon à nous, dans notre compréhension à nous. On est en train de chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Des décisions, des orientations de carrière, des choix difficiles à faire, des choix même d'implication, de service dans l'Église. Toutes sortes de décisions à prendre. Alors, un chrétien va aller dans la prière à ce moment-là. Il va demander conseil aussi à des amis, à des gens matures dans le Seigneur. Dans notre langage à nous, on va dire qu'on va chercher la face de Dieu. N'est-ce pas? On va chercher la face de Dieu pour chercher la direction de Dieu. Ça, c'est certaines circonstances. Mais il arrive aussi qu'à certains moments de notre vie, nous savons très bien quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. On n'a pas besoin de chercher sa volonté. Nous n'avons pas besoin de chercher sa direction, quelle est la bonne chose à faire. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Et c'est là le problème. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas ce que nous voulons. Il y a ce que Dieu désire pour nous et nous le savons, et il y a ce que, au plus profond de nous-mêmes, nous désirons. Et il arrive qu'il y ait un conflit, qu'il y ait un dilemme entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous désirons. Parce que des fois, ce que Dieu désire pour nous implique de l'inconfort, voire de la douleur. Vous avez vécu des moments comme ceux-là, et dans l'étendue d'une vie chrétienne, on va en vivre à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, on va se retrouver dans une situation où nous avons un dilemme devant nous parce qu'on voit quelle est la volonté de Dieu pour notre vie et il y a en nous une autre volonté qui voudrait aller ailleurs. C'est pas un moment où on est en train de chercher la volonté de Dieu. Au contraire, tu connais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. La bonne chose à faire, tu la connais, tu la sais, mais tout en toi dit non, c'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas ça que je désire. Et évidemment, lorsqu'on est chrétien, bien le hic, c'est que nous nous sommes engagés à marcher dans la voie de Dieu. Nous avons pris cette décision de faire le bien en tout temps, de marcher selon la vérité en tout temps, de marcher dans les voies de Dieu, de faire ce qui va glorifier Dieu. Alors, lorsqu'il y a ce conflit intérieur, ces moments-là peuvent amener des tourments assez profonds, assez sévères, assez sérieux. Ce qui est fascinant dans le passage de Matthieu 26, c'est que le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, a vécu un moment semblable. Il a vécu un moment de trouble intérieur profond où il savait très bien ce que le Père attendait de lui et où lui-même, devant l'épreuve, devant l'ampleur de l'épreuve qu'il attendait et des douleurs qu'il avait à traverser, s'est mis à vivre de l'angoisse. Le Fils de Dieu savait quelle était la volonté de Dieu, mais devant cette épreuve, il a commencé à être troublé intérieurement et vivre de l'angoisse à l'intérieur de lui, dans son cœur. C'est assez surprenant lorsqu'on commence à connaître Jésus en lisant les Écritures. Maintenant, Matthieu, qui était un des témoins ce soir-là, cette nuit-là, qui a écrit cet évangile, il était dans le jardin. Cette nuit-là avec Jésus nous dit que Jésus a vécu de l'angoisse et de la tristesse profonde. Maintenant, si vous êtes avec nous depuis quelques mois, nous avons vu que Jésus annonçait ce qui s'en venait. Jésus annonce depuis des semaines, voire depuis des mois à ses disciples ce qui s'en vient. Il sait ce qu'il attend. Il essaie de préparer ses disciples. Il leur avait annoncé qu'il serait arrêté, puis qu'il serait mis à mort. On a même vu dans les derniers chapitres que Jésus est très intentionnel. Il avance avec une grande détermination. C'est pratiquement lui qui commande les événements, qui met les cartes en place pour arriver à ce moment-là. Et pourtant, Matthieu nous raconte qu'en arrivant dans Gethsémané, Jésus a commencé à éprouver non seulement de la tristesse, mais des angoisses. En québécois, là, on dirait que Jésus a choqué. M'excuse pour ceux qui ne comprennent pas ça, là. Mais Jésus est arrivé dans le jardin et tout d'un coup, c'est ça qui est dit, Matthieu nous dit, il commença. Il sait où il s'en va, mais tout d'un coup, Jésus a choqué, là dans le jardin. Il a été saisi d'angoisse devant ce qui était devant lui. Le texte grec nous parle de tristesse profonde, d'un sentiment de détresse, littéralement. Il était affligé, écrasé dans son esprit par ce qui était devant lui. Et en fait, Jésus va s'ouvrir à trois de ses disciples. C'est assez spécial comme situation, d'accord? Jésus va aller s'ouvrir à trois de ses disciples. Imaginez la scène. Celui qui a commandé à la mer de s'apaiser, celui qui a guéri les malades, qui a tenu tête à maintes reprises aux autorités religieuses, qui l'attaquait publiquement. Jésus, un homme d'une grande autorité. Tu allais vers lui, tu l'écoutais enseigner, il inspirait la confiance, le repos, l'assurance, le calme. Mais ici, il demande à Jacques, Pierre et Jean de venir le soutenir, de venir le supporter. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? C'est une scène étrange parce que Jésus se rend dans notre langage à nous. Dans notre langage contemporain, Jésus se rend vulnérable et transparent. Est-ce que je peux dire ça? Jésus se rend vulnérable et transparent en partageant ce qu'il vit à ses disciples. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Avez-vous déjà demandé à un ami de rester avec vous à la fin d'une soirée ou une journée où vous avez eu une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de troublant qui arrive dans votre vie et vous avez simplement dit à un ami, « Reste avec moi, s'il te plaît. Va-t'en pas tout de suite. » Tu sais que la personne ne peut rien faire vraiment pour changer les circonstances, puis il n'y a pas une parole qui va dire, qui va venir régler le problème, mais tout ce que tu demandes, tu dis, reste avec moi, s'il te plaît. Reste là. Reste avec moi. Veille avec moi. Vous avez déjà vécu ça? C'est ce qui se passe avec Jésus ici. Le Fils de Dieu est en train de dire à ses amis, veillez avec moi, les gars, restez ici. Je suis triste à mourir en ce moment. Pouvez-vous veiller à côté de moi? C'est assez surprenant comme scène. Il leur demande leur soutien. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Matthieu nous dit qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et je sais, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, « Oui, mais Yannick, tu sais, c'est parce que c'était gros, là. C'était gros, l'épreuve qui était devant lui. Il n'y a aucun homme qui a supporté ça. Ça fait des semaines que tu nous le dis. » Je comprends, mais attendez, restez juste dans l'émotion que Jésus est en train de vivre ici. Jésus est angoissé. Jésus est angoissé devant ce qu'il y a devant lui. C'est ça qu'il est en train de vivre. Et il demande le soutien de ses amis. Il montre de la fragilité ici. Est-ce que vous voyez l'humanité de Jésus-Christ? Vous savez, des fois, lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle de Dieu avec des amis, une des choses qu'on entend souvent, c'est une espèce de reproche qui vient assez vite. Hein? Si Dieu existait, il serait plus sensible à notre misère humaine. Si Dieu existait, il comprendrait ce qu'on est en train de vivre. Mais voyez-vous, c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et personne ne peut dire en lisant ces lignes que Jésus-Christ ne comprenait pas notre humanité, que Jésus-Christ ne comprenait pas nos angoisses, nos inquiétudes, nos troubles profonds. Jésus-Christ a expérimenté l'inquiétude ici, la tristesse et l'angoisse. Il a été troublé à l'intérieur de lui-même. Découvrir Jésus-Christ amène à voir Dieu radicalement, d'une manière complètement différente. Et lorsque vous êtes en train de parler avec des gens qui vous disent « Ouais, mais si Dieu existait, Ils ne seraient pas si indifférents, ils ne seraient pas si loin que ça. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus-Christ. Dites-leur, laisse-moi te parler d'un Dieu magnifique qui comprend notre misère, qui est venu à éprouver les angoisses que nous éprouvons. Qu'est-ce que tu dirais si je te parlais d'un Dieu qui a demandé à ses amis de rester près de lui dans un moment d'angoisse? Parlez-leur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a vécu dans un corps comme nous, il a éprouvé des angoisses. Comme le dit la lettre aux Hébreux, il peut compatir avec nous dans ce que nous vivons. Et on oublie cela. On a tendance à croire que Jésus est tellement extraordinaire qu'il ne peut pas saisir. Mais écoutez ce que Jésus est en train de vivre ici. Il peut compatir à ce que nous vivons. Il n'est pas un Dieu lointain, étranger à notre petite misère humaine. Au contraire, il a marché parmi les hommes, il a vécu comme un homme et a éprouvé l'angoisse comme un homme. Il a été tellement humain qu'il a cherché le soutien de la part de ses amis. Est-ce que c'est assez humain, ça? Il voulait juste que ses chums restent avec lui. Je sais, les gars, vous ne pouvez absolument rien faire. Restez avec moi, s'il vous plaît. Restez ici, à côté de moi. Alors, quand je prie, quand je m'adresse à Dieu et je suis en train de traverser une période de détresse, d'inquiétude, je vois ce qui est en train de s'annoncer à moi. Et j'ai un haut-le-cœur devant ça. J'ai plein de choses en moi qui disent « Non! Je ne veux pas avancer dans cette voie-là. » Je m'adresse à Jésus-Christ comme à celui qui a vécu cela dans le jardin. C'est ce Sauveur-là à qui je suis en train de m'adresser. Il est capable de compatir à mes épreuves, à mes fardeaux. Je sais qu'il peut compatir parce qu'il a vécu lui-même cette angoisse. Est-ce que vous avez déjà vécu de l'angoisse? L'angoisse, c'est quelque chose, c'est une espèce d'expérience assez traumatisante. C'est pas une peur, hein? L'angoisse, c'est une espèce de peur à la 10. Quand tu es saisi d'angoisse, il y a une espèce de confusion qui vient dans tes pensées. Tout d'un coup, tu deviens irrationnel. Ce qui était clair pour toi n'est plus tout à fait clair maintenant. Et le terme qui est utilisé ici parle d'un trouble de l'esprit, un trouble de la pensée. C'est ça de l'angoisse. Christ a vécu l'angoisse. Jésus-Christ a vécu l'angoisse. Et il demande le soutien de la part de ses amis. Maintenant, Jésus devait vivre cette épreuve-là entièrement seul, parce qu'il était seul à pouvoir prendre le châtiment. Blaise Pascal a dit, non seulement ses disciples, ses amis l'ont abandonné physiquement, mais ils l'ont abandonné émotivement. Imaginez que vous demandez à un de vos chums de veiller avec vous le jour où vous apprenez que vous avez un cancer, et en dedans d'une heure, il est en train de ronfler à côté de vous. Alors, non seulement ses disciples vont l'abandonner physiquement, dans quelques temps, ils vont se sauver en courant, mais Blaise Pascal dit, il était déjà abandonné. Il était déjà entièrement seul dans le jardin, parce qu'émotivement, il n'y avait personne qui était avec lui. Ses disciples n'étaient pas avec lui pour l'accompagner dans ce moment-là. C'est évident, les gars vont s'endormir, incapables de veiller une heure avec lui dans ce moment-là. Pendant que Jésus pleure et gémit, eux dorment. Ils ajoutent l'outrage de fuir lorsqu'il va être attaqué physiquement pour l'arrestation. Ils ajoutent à cet outrage-là de s'endormir pendant que lui est en train de gémir. Jésus était seul, entièrement seul. Alors, quel est ce dilemme que Jésus vit dans ce moment-là? Quel est le dilemme intérieur devant l'épreuve? Qu'est-ce que Jésus est en train de vivre? Comme on l'a dit, Jésus connaît l'épreuve qui s'en vient. Il sait l'épreuve qui est devant lui. Il la mesure depuis longtemps et il l'attend. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit dans sa prière. Il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus exprime le fait qu'il y a ce qu'il veut et ce que son Père céleste veut. C'est assez étrange lorsque tu connais bien les évangiles, tu as bien lu l'évangile de Jean, c'est assez particulier. Son Père voudrait une chose et lui voudrait une autre chose. C'est vraiment particulier. Nous savons que le Fils et le Père sont un. Les évangiles sont très clairs là-dessus. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Et pourtant, dans ce passage, il vit un dilemme intérieur. Il semble définitivement y avoir deux volontés ici. C'est ce que Jésus dit. Je ne suis pas en train de mettre des mots dans sa bouche. Pourtant, Jésus-Christ était parfaitement d'accord avec le plan du Père. Jésus ne s'est pas fait forcer pour aller jusque-là. Et je vais vous citer dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Voici ce que Jésus dit. D'accord? C'est Jésus qui parle. Jean 10, 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, dit Jésus. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Ainsi, Jésus-Christ était parfaitement volontaire dans ce sacrifice-là. C'est volontairement qu'il s'est avancé jusqu'à ce moment-là. C'est volontairement qu'il se prépare à aller à la croix. Mais ici, au moment précis où il est dans ce jardin-là, dans cette nuit sombre-là, dans le jardin de Gethsémané, Jésus prie et demande à son Père de prendre un autre moyen, si cela était possible. Père, est-ce qu'il y aurait un autre chemin possible à prendre? Jésus envisage l'épreuve qui est devant lui, la coupe qu'il va devoir boire, et il est saisi d'angoisse. Cette coupe qu'il doit boire, il en a parlé déjà au chapitre 20, cette coupe représente d'une part la souffrance, d'autre part l'épreuve qui est devant lui. Mais dans l'Ancien Testament, faites une recherche dans votre concordance, faites une étude juste sur le terme « coupe » et allez voir combien de fois la coupe dans l'Ancien Testament est une illustration de la colère de Dieu. On parle de la coupe de la colère de Dieu. Je vais juste vous lire un passage dans Ésaïe 51, versets 22 et 23. Ésaïe 51, 22, 23. « Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. » Dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Habacuc, dans Zacharie, constamment ces prophètes nous parlent de la coupe de la colère de Dieu, cette coupe qui représente le jugement divin. Et comme on l'a vu la semaine dernière dans Ésaïe 53, Jésus est venu pour prendre sur son dos, sur lui-même, le châtiment que nous méritions. Ésaïe 53, 4 et 5, je l'ai lu la semaine dernière, je vous le relis. Nous l'avons considéré. D'accord, c'est une prophétie à l'époque, c'est un peu obscur. Aujourd'hui, on comprend ces choses parce que Jésus est venu. Alors, Ésaïe a été écrit bien avant la venue de Jésus-Christ. Mais voici ce que le prophète avait annoncé. « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous l'avons considéré frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, cette coupe qui est placée devant Jésus, c'est la coupe de la colère de Dieu. C'est la juste colère de Dieu qui doit venir sur tous les pécheurs. Ça veut dire chaque personne ici dans cette pièce. Ça veut dire tous les hommes sur la terre. Nous sommes tous pécheurs et méritons tous un jugement de Dieu. Et Jésus-Christ, à ce moment-là, sait qu'il va boire la coupe de la colère de Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ était entièrement consacré à faire la volonté du Père, mais dans ce moment de souffrance et d'angoisse, il est tenté. Il est tenté de chercher s'il n'y a pas un autre moyen d'accomplir le plan rédempteur de Dieu. Il ne s'agit pas d'un acte de rébellion de la part de Christ, mais l'expression d'un tourment intérieur qu'il vit. En fait, j'aime comment un des commentateurs le résume. Jésus-Christ n'est pas nécessairement autant en train de vivre un conflit avec Dieu qu'un conflit avec lui-même. Parce que ce plan-là, c'est son plan à lui de toute éternité aussi. Mais à ce moment-là, il vit un trouble intérieur, un conflit intérieur, personnel. Sa lutte n'est pas autant avec Dieu qu'avec lui-même. Et je trouve que c'est beau et que c'est instructif de voir Christ qui est divisé, de voir comment Christ a choisi de vivre ce combat dans la prière avec Dieu. Voyez-vous où est-ce qu'il le vit? Voyez-vous où il est cette nuit-là? Il est en train de parler avec son Père. Son Père n'est pas celui qui va aller boire la coupe. Mais là, Jésus vit ce tourment intérieur. Il le vit dans la présence de son Père, en parlant à son Père, en disant, est-ce que tu vois où je m'en vais? Moi, je suis bouleversé, là. Je vais devoir recevoir ça. Et il y a un mystère pour nous de saisir le fait que Christ a été maudit sur cette croix. Comprenez, il y a quelque chose que nous ne saisirons jamais qui s'est passé dans la Sainte Trinité entre Dieu le Père et le Fils. Parce que Christ a été fait péché sur cette croix. Mais Jésus-Christ est en train de vivre ça dans la prière. Il vit ce dilemme dans la présence de Dieu, tout près de son Père. Jésus dit à ses disciples, « Veillez, priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien, Jésus prie. Et veille, et va vers son Père. Alors, il prie une heure, puis il vient vers ses disciples qu'il trouve endormis. Et il retourne prier encore. Et puis, il retourne prier une troisième fois. Et c'est pendant ces heures, dans la prière, dans la présence de son Père, que Jésus s'en remet entièrement à la volonté du Père. Ce combat-là est livré là dans la prière et c'est là que Jésus dit « Ta volonté et non la mienne, ce que tu veux. » L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit dans Hébreux 5, 7, en parlant probablement de ce moment-là, d'accord? Probablement que c'est de ce moment-là dont il parle. L'auteur nous dit, en parlant de Jésus, il dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il était incarné, lorsqu'il était un homme, dans ses jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, probablement sauvé de la mort dans le sens qu'il a été ressuscité, n'est-ce pas? Écoutez ce que l'auteur dit. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bien qu'il fût fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ a appris quelque chose. Ici, à ce moment-là. C'est un passage touchant, un passage qui est particulier. Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme l'homme parfait qui n'a jamais commis aucun péché. Qu'est-ce qui lui reste à apprendre à cet endroit-là? Jésus-Christ est parfait. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'a jamais commis de péché. Alors, lorsque l'auteur nous dit qu'il est en train d'apprendre l'obéissance, ce n'est pas vraiment une scène où tu aurais un fils désobéissant qui, à travers les corrections, va apprendre l'obéissance. Ce n'est pas le Jésus qui nous est présenté dans la Bible. Non, vous avez un fils qui est parfaitement obéissant et qui va apprendre quelque chose à travers des souffrances. Il va apprendre quelque chose concernant l'obéissance. Et ce que je crois qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que Jésus-Christ a expérimenté, il a goûté ce que veut dire parfois obéir. Il a expérimenté ce qu'implique parfois l'obéissance parce qu'il a toujours été obéissant. Mais Jésus-Christ a goûté à ce moment-là le coup qui vient parfois lorsqu'on décide d'obéir, ce qui était définitivement une expérience nouvelle pour Jésus-Christ à ce moment-là. Parce que dans son humanité, il voyait le prix à payer. Non seulement le prix de la mort qui l'attendait, des souffrances physiques qui l'attendaient, mais d'une manière bien réelle et tellement étrangère à notre pensée, ce qu'il allait vivre dans sa communion avec le Père pour qu'il puisse s'écrier plus tard, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus-Christ a appris par les souffrances qu'il a vécues la réalité de l'obéissance. Il l'a expérimenté dans sa chair, dans son cœur, lui-même. Il a été saisi d'angoisse devant l'épreuve et il a expérimenté un désir en lui-même de prendre un autre chemin que l'épreuve qui était placée devant lui. Et il a été trouvé fidèle par Dieu en disant « Non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce que tu veux. L'obéissance, c'est parfois de dire à Dieu « Non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous savez, parfois, c'est facile d'obéir à Dieu quand tu vois ce que Dieu attend de toi, puis tu vois toute la joie que ça va apporter. Tu vois que les principes de la parole de Dieu sont bons. En fait, tu regardes l'insensé qui ne veut rien savoir de la parole de Dieu, puis tu lui dis, si tu savais comme c'est agréable de marcher dans les voies de Dieu, n'est-ce pas? On lit les proverbes, puis on voit plein de principes de sagesse, puis tu dis, celui qui décide de ne pas faire ça est vraiment insensé. Le bonheur se trouve à faire la volonté de Dieu. Et souvent, c'est ça, obéir à Dieu, c'est plein de joie, c'est plein d'agrément. Nous bâtissons par la grâce de Dieu des vies qui sont plus sensées et plus agréables que celui qui marche sans Dieu. Alors souvent, faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très agréable. Et plus tu le fais, plus tu te dis, mais comme j'étais insensé de ne pas le faire plus tôt. Mais parfois aussi, faire la volonté de Dieu, c'est accepter d'entrer dans l'inconfort, voire dans des douleurs profondes. Et donc, parfois, faire la volonté de Dieu, c'est de vivre à l'intérieur de nous un autre désir parce qu'on est humain. Parce que nous mesurons, parce qu'on est fait comme le reste des hommes. Nous ne sommes pas faits de bois, nous vivons dans cette chair. Et parfois, faire la volonté de Dieu, c'est avec larmes dire « Non ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. » Et avancer vers la souffrance. Ça a été le cas pour Jésus-Christ ici. Ça a été le cas pour Jésus-Christ ici. Ce combat, Jésus l'a livré dans la prière, une prière longue et très intense. Mais regardez au verset 46, regardez comment ça se termine. Au verset 46, Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, approche. » Et il y a quelque chose de guerrier dans ce que Jésus fait ici. Voyez-vous, lorsque Judas est arrivé dans ce jardin-là, il n'a pas trouvé Jésus sur sa face en train de gémir devant ce qui l'attendait. Le combat a été livré déjà dans la prière, dans ses heures passées avec son père. Et lorsque Judas arrive avec les soldats, lorsque le traître, lorsque l'ennemi se présente devant lui, voici ce qu'il dit aux hommes qui sont avec lui. Levez-vous maintenant. Celui qui me livre approche. Et il est debout. La victoire a été gagnée. Il est prêt à entrer dans le combat. Et à partir de ce moment-ci, tout ce qui va suivre dans les événements, vous voyez Christ faire face à l'épreuve avec une dignité extraordinaire. La bataille était, pour ainsi dire, déjà gagnée. Le combat avait déjà été livré dans la prière avec son cœur au moment où il a dit « Ce que tu veux, Père, non ce que je veux. » Jésus-Christ est un merveilleux sauveur. qui peut compatir à nos faiblesses et qui a été trouvé fidèle pour prendre sur lui-même le châtiment que nous méritions. Il y a une croix que Jésus-Christ a portée qu'aucun d'entre nous ne pouvons porter. Parce qu'il était le seul Fils de Dieu sans péché qui pouvait aller mourir sur cette croix. Il est un sauveur merveilleux. Et je peux aller vers lui pour prier, pour le supplier quand je suis dans des moments d'angoisse. Lorsque les choses devant moi sont difficiles, je peux aller dans la prière parce qu'il peut compatir à tout cela. Mais non seulement Jésus-Christ est un sauveur merveilleux, mais il est aussi notre modèle parfait. Jésus-Christ est notre exemple. Il est celui que nous désirons imiter. C'est à lui que nous voulons ressembler dans les moments difficiles de la vie. Il est un merveilleux sauveur qui a fait le choix ultime de la souffrance pour notre salut, mais il est aussi notre modèle par excellence dans les moments difficiles de la vie. Tous ceux d'entre nous ici ce matin qui nous appelons chrétiens, nous nous sommes engagés à suivre Jésus-Christ. Amen. C'est l'engagement qu'on a pris. Je vous rappelle que chrétien, ça veut dire, je ne le dirai pas en québécois, petit Christ, nous nous sommes engagés à être des imitateurs de Jésus-Christ. Nous sommes ses disciples. Lui seul pouvait porter cette croix-là, mais plus tôt dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit que tous ses disciples ont une croix à porter. Matthieu 16, 24, 25, c'est Jésus qui parle et il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça ressemble drôlement au jardin de Gethsémané. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la gloire du Père et il attend tous ceux qui se chargeront à sa suite de leur croix. Jésus-Christ est notre modèle, nous cherchons à être ses imitateurs. En fait, nous voulons être transformés à son image. Cela implique qu'on va passer par certains des passages où il est passé, à notre mesure à nous. Il y a une croix que lui seul pouvait porter, mais chacun d'entre nous avons une croix à porter. Jésus est non seulement notre sauveur qui accomplit à la croix ce qu'aucune autre personne ne pouvait accomplir, mais il nous montre aussi comment faire face dans les moments difficiles, dans les décisions difficiles et déchirantes. Quand nous nous trouvons devant une épreuve, écoutez bien ceci, quand nous nous trouvons devant une épreuve et que nous voyons où Dieu veut nous faire passer, où Dieu veut nous conduire, et qu'à ce même moment-là, on voit très bien le passage où Dieu veut nous conduire, mais tout en nous crie « Non, Seigneur !» Jésus-Christ est notre exemple. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à ces moments-là? Et je vous le dis, dans l'étendue d'une vie chrétienne, il va y avoir des moments charnières où vous allez avoir des décisions à prendre, où je vais avoir des décisions à prendre. Et l'expérience de la vie va m'avoir déjà enseigné que si je marche dans la voie de Dieu, il va y avoir de la souffrance qui va s'en venir. Ça peut être avec le boulot, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les amitiés. Vous savez, il y a toutes sortes de domaines. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans mon service. L'expérience de la vie m'a appris que ce qui est devant moi, le passage obligé qui est là, est rempli de souffrance. Pourtant, je sais que Dieu veut que je passe par là. Tu sais ce que Dieu attend de toi, et tout en toi dit non, je ne veux pas. J'ai essayé de résumer en 6 éléments ce que Jésus nous enseigne ici. D'accord? D'une part, Jésus est le sauveur parfait et d'autre part, il est le disciple parfait. Il est celui qui nous sauve et il est celui que nous voulons imiter. Premièrement, 6 éléments à retenir dans ces dilemmes que vous allez traverser. Premièrement, reconnaissez que l'esprit est bien disposé mais que la chair est faible. Et ici, on n'est pas en train de parler de la chair comme l'apôtre Paul en parle, d'accord? Notre nature pécheresse, je ne crois pas que c'est de ça dont il est allusion ici. Je pense qu'il est tout simplement en train de parler de notre humanité. Il y a de nobles pensées en nous et notre réalité humaine dit, si je suis ces nobles pensées-là, ça va faire mal. Alors, premièrement, prenez le temps de reconnaître que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne soyez pas prétentieux comme Pierre, qui disait, non, moi, je ne tomberai pas, Seigneur. Vous allez vous endormir sur la job, c'est ça qui va se passer. Reconnaissez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Deuxièmement, veillez et priez. Maintenant, quand Jésus a veillé et prié, ce n'est pas 15 minutes. Comprenez, c'est toutes les heures nécessaires. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Passez toutes les heures nécessaires dans la prière. Un frère vient me partager une épreuve qu'il doit traverser. Je l'écoute parler, puis ses pensées sont tellement comme humaines. Il n'y a pas la perspective divine dans ce qu'il est en train de dire. Et là, je lui dis, est-ce que tu en as parlé avec Dieu? Oui, oui, j'ai prié. Combien de temps tu as prié? Ben, tantôt, là, je lui en ai parlé. Non, mais combien de temps tu as passé dans la prière? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est allé passer des heures dans la prière. Il était en parfaite harmonie avec son Père. Il est allé passer des heures dans la prière. Parce que la tentation est forte de vouloir prendre un autre chemin que celui que Dieu place devant moi. Et je vais devoir veiller et prier, veiller et prier, veiller et prier. Ces victoires-là ne s'acquièrent pas toutes en 3 minutes. En fait, si c'est acquis en 3 minutes, il n'y avait probablement pas de victoire à aller chercher. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vivre un trouble intérieur et vous mettre à genoux et dire, Seigneur, je suis prêt à passer les 60 prochaines minutes ici. J'ai besoin que tu disposes mon cœur à dire ce que tu veux, Père. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Reconnaissez que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Deuxièmement, veillez, priez, prenez le temps qu'il faut. Troisièmement, même s'il y en a qui s'endorment sur la job, cherchez le soutien de frères et sœurs. Je veux dire, si Jésus l'a fait, je pense que c'est bon pour nous. Ça se peut qu'ils ne soient pas tous fidèles, ça se peut qu'il y en ait qui s'endorment sur la job. Mais cherchez le soutien de frères et sœurs. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a jugé bon d'ouvrir son cœur, d'être transparent et demander le soutien de gars vraiment pas très fiables. Alors, soyons assez humbles pour l'imiter. Ne vivez pas votre épreuve tout seul, sur votre montagne, dans votre jardin secret. Allez chercher le soutien de frères et sœurs qui vont venir veiller, prier avec vous, même s'ils sont pécheurs comme vous, et ça se peut qu'ils s'endorment sur la job. Quatrièmement, exprimez à Dieu honnêtement ce dilemme intérieur. Si Jésus-Christ, qui faisait toujours la volonté de son Père, a pris le temps d'être franc avec son Père. Écoutez le langage de Jésus ici. Est-ce que nous ne pouvons pas être honnêtes comme David le faisait dans la prière? Jésus lui-même l'a fait. Alors, ça ne sert absolument à rien de rationaliser puis de dire « on est capable » quand à l'intérieur, tu es tout à l'envers. Va dans la prière puis ouvre ton cœur devant Dieu puis dis-le « Seigneur, je sais où tu veux que je passe, mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas prendre ce chemin-là. » Exprimez honnêtement ce dilemme intérieur. Cinquièmement, veillez et priez jusqu'à ce que vous disiez. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir vous lever comme Jésus-Christ et faire face à l'épreuve. Je les répète, reconnaissez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez tout le temps qu'il faudra. Troisièmement, cherchez le soutien de frères et sœurs. Quatrièmement, exprimez à Dieu honnêtement ce dilemme intérieur que vous vivez. Cinquièmement, veillez et priez jusqu'à ce que vous soyez prêts à dire, non, ce que je veux pas, mais ce que tu veux, Seigneur. Et sixièmement, levez-vous et faites face à l'épreuve. Sa grâce va vous suffire. Voyez-vous ce qui est extraordinaire dans ce récit-là? On aurait pu aller dans Luc, mais lorsqu'on va dans l'Évangile de Luc, on voit qu'à ce moment-là, il y a un ange qui est venu pour fortifier Jésus. Maintenant, la promesse que Jésus-Christ nous a donnée à nous à la fin de l'Évangile de Matthieu, c'est quoi? Tout pouvoir m'a été donné, hein, sur la terre et dans les cieux. Et il termine en disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et lorsque je prends le temps d'aller vivre ces moments de dilemme-là, je sais par où Dieu veut que je passe, mais je ne suis pas prêt à m'y soumettre. Quand je prends le temps d'aller les vivre dans la prière, Christ, par son esprit, va venir comme cet ange, me fortifier. Il m'a promis qu'il était avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout pouvoir lui a été donné. Je ne sais pas si actuellement Dieu place dans votre vie une croisée de chemin comme ça. Ça peut être dans le travail, les relations, n'importe quoi. Des fois, c'est des situations où il n'y a pas vraiment une décision à prendre, sinon que d'entrer dedans. Quand on vous apprend que vous avez une maladie terrible, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, tu ne peux pas te sauver. Mais il y a ce moment de conflit intérieur où tu dis « Non! » Et il est possible, par la grâce de Dieu, d'arriver à cette attitude tellement bénissante. On dit, Père, ce que tu veux. Je ne sais pas si vous êtes à une de ces croisées-là, à un de ces croisements-là dans votre vie. Jésus-Christ comprend l'angoisse que vous pouvez vivre. Et il peut venir vous délivrer et vous donner la victoire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour toute personne dans cette assemblée qui n'a pas encore saisi ta beauté. Pour toute personne dans cette salle qui n'a pas accepté encore ce sacrifice que tu as fait à sa place, Seigneur. Seigneur Jésus, dans ces moments, dans ces jours terribles pour toi, tu as vraiment pris sur tes épaules un châtiment bien réel qu'un Dieu saint et juste doit remettre à tout pécheur. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas qu'un homme qui est mort sur une croix, incompris par ses contemporains. C'est le Fils de Dieu qui a été fait péché à notre place. Seigneur Jésus, je te prie dans ta grâce de venir illuminer les yeux de tout cœur ici qui n'a pas saisi l'Évangile. Seigneur, je ne peux pas faire plus que prêcher l'Évangile. Mais toi, Père, tu peux sauver par ton esprit. Viens sauver ce matin, Seigneur. Viens éclairer une âme perdue afin qu'elle embrasse ce Sauveur magnifique. J'aimerais te prier, Père, pour toute personne, tout frère, toute sœur dans cette salle qui est en train de vivre des moments semblables, où tout en lui, tout en elle, crie « Non, je ne veux pas prendre ce chemin. » Pourtant, il n'y a pas de confusion à savoir quelle est ta volonté. Les choses sont claires, elles sont toutes tracées dans ta parole. Ce qui est bon, ce qui est la bonne chose à faire est tout là dans ta parole, Seigneur. Mais il y a ce tourment intérieur, ce trouble, ce combat. Parce que le chemin à suivre n'est peut-être pas agréable. Et il peut être même très douloureux. Seigneur, je te prie en ce moment par ton esprit de venir fortifier une telle personne. Envoie-lui cette semaine des frères et sœurs qui vont venir prier avec lui et avec elle, qui vont venir veiller avec lui et avec elle, qui vont venir passer les heures nécessaires dans la prière. Et viens lui donner, Seigneur, cette victoire de se lever, faire face à l'épreuve, entièrement soumis à la volonté du Père céleste. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.